sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 26 novembre 2010 s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France la séance annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission intégrale de cette séance solennelle dans laquelle vous entendrez successivement plusieurs discours. Jean Leclan, secrétaire perpétuel, a présenté les travaux de l'Académie au cours de l'année 2010 et a rendu hommage aux académiciens disparus. Michel Zing, vice-président de l'Académie, a lu le palmarès des prix décernés par les académiciens et a proclamé la liste des nouveaux archivistes paléographes comme c'est l'usage chaque année. Ensuite, vous entendrez Pierre-Sylvain Filioza, président de l'Académie, prononcer un discours sur l'Asie à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ensuite, vous entendrez André Vaucher, membre de l'Académie, parler de l'école française de Rome entre tradition et modernité. Puis Olivier Picard, membre de l'Académie, a prononcé un discours sur l'école française d'Athènes entre la Grèce et l'université française. Ensuite, vous entendrez Nicolas Grimal, membre de l'Académie, sur l'Académie et l'Institut du Caire, puis Bernard Potier, également membre de l'Académie, sur la Casa de Velázquez et le monde hispanique. Cette année, les académiciens avaient mis à l'honneur les écoles françaises à l'étranger, avec lesquelles l'Académie des inscriptions et belles-lettres entretient des liens profonds.
Les traditions sont certes respectables, mais elles ne doivent pas demeurer figées. Aussi, notre bureau a-t-il décidé cette année, sur proposition de notre président, M. Pierre-Sylvain Filioza, de consacrer la présente séance à une présentation d'ensemble des grandes écoles françaises de recherche à l'étranger, relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, et placées dans la mouvance de notre Académie. Celles-ci sont adossées au nombre de 5, fondées en 1846, dans le sillage des combats de la libération de la Grèce, devenue lentement une institution de formation à la recherche, sous l'influence directe de l'Académie, l'école française d'Athènes est la doyenne de ce grand réseau scientifique, puis créée sous l'impulsion déterminante de son directeur Albert Dumont et de notre compagnie, l'école française de Rome naquit entre 1873 et 1875 pour contrebalancer l'hégémonie de la science allemande. Ce premier sillon tracé devait ouvrir un champ d'initiative qui aboutir dans un second temps à la fondation tout d'abord de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'IFAO, mis en place en 1998 par Gaston Maspero, membre de l'Académie, son futur secrétaire perpétuel, puis de l'École française d'Extrême-Orient, l'EFEO, qui a vu le jour en 1901 grâce à l'initiative éclairée du gouverneur général de l'Indochine, Paul Doumer, et aux encouragements de l'Académie, enfin de la Casa de Velázquez de Madrid, 1928, institution fort originale qui groupe en deux sections, l'une artistique et l'autre historique, placée sous la hégémonie conjointe de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie d'inscriptions des Belles-Lettres, on le voit. La création de ces organismes prestigieux de recherche procède à tout le moins de l'impulsion donnée durant le 19e siècle par l'Académie à la politique scientifique de notre pays dans le domaine de son sort. Des textes, où une communauté de destin inaltérable relie depuis toujours notre compagnie à ses établissements, aux intérêts convergents, mais aussi à un long cortège de savants qui, membres dans leur jeunesse de ces écoles, les dirigeants parfois ensuite, ont poursuivi, par-delà leur carrière universitaire, leurs travaux qu'être conti. Si la quasi-totalité des directeurs des écoles françaises d'Athènes et de Rome ont été ou sont membres de l'Institut, la moitié de ceux de l'EFEO ou de l'IFAO siègent ou ont siégé en ces lieux. En surcroît, si mon calcul est juste, ce sont actuellement 39 académiciens et correspondants français de l'Académie d'inscriptions des belles-lettres qui ont été membres scientifiques de ces écoles. Ainsi sont maintenus vivants, aborigines, dans la continuité, malgré les évolutions rendues souvent nécessaires, les liens d'une passion partagée qui n'a jamais cessé depuis lors de nous animer. C'est la raison pour laquelle, comme l'illustrera notamment notre président, nul mieux que notre Académie, et plus largement l'Institut de France, ne connaît ces institutions d'excellence et par conséquent ne peut les soutenir, garantir leur autonomie et leur intérêt au niveau scientifique et leur raison d'être et de perdurer. Afin que le futur de cet établissement est appelé à être infléchi par un projet de décret unique les réformant, dont certaines dispositions ont suscité au demeurant l'inquiétude, il a semblé utile à l'Académie de dresser une sorte de bilan des actions menées en ces écoles sous son patronage actif et de mettre en lumière l'originalité de l'organisation au sein d'un monde de la recherche en but à bien des difficultés, de poursuivre aussi la réflexion sur leurs perspectives d'avenir. Dans un contexte de morosité générale, et alors que le rayonnement de notre culture semble s'estomper quelque peu, nous avons également souhaité indiquer que la défense et l'illustration de la francophonie passent par priori par le soutien des domaines d'action aux autres pays tient encore son rang, et au premier chef, celui des institutions qui en sont le vecteur privilégié, au nom desquelles nos glorieuses écoles françaises à l'étranger, auxiliaires irrécusables, vouées à l'admiration de nos collègues étrangers, tiennent une place de tout premier plan. Une fois posées ces conditions générales, il m'appartient de vous présenter brièvement le bilan annuel de la vie et des activités de notre compagnie depuis la rentrée solennelle précédente. Trois de nos confrères nous ont quittés à notre très grand regret. Le 22 décembre, disparaissait le professeur André Gouron, qui avait été élu le 7 mai 1999, historien du droit romain et coutumier français. Ses travaux sur les juristes méridionaux du XIIe siècle connurent un grand retentissement. Professeur émérite de l'Université de Montpellier I, il avait animé l'Institut d'Histoire des anciens pays de droit écrit du CNRS. Le 25 septembre 2010, nous quittait l'éminent médiéviste Bernard Guenet, membre de l'Académie depuis le 6 mars 1981. Normalien, agrégé d'histoire, il avait enseigné à la faculté des lettres et sciences humaines de Strasbourg, puis à la Sorbonne, de 65 à 95, directeur d'études à la 4e section de l'école pratique des hautes études, il fut professeur invité par les universités anglo-saxonnes les plus prestigieuses, où il apporta beaucoup pour le rayonnement des études médiévales françaises. Grand spécialiste de l'Occident médiéval, il s'était tout particulièrement attaché à l'étude des pouvoirs, de leurs mécanismes, et des croyances associées à la fin du Moyen-Âge. Le 19 octobre 2010, disparaissait à son tour le médiéviste Robert-Henri Vautier, qui avait été élu membre de l'Académie le 13 décembre 1974, diplômé archiviste paléographe, ancien membre de l'École française de Rome. Il avait été notamment pendant quelques 30 années professeur de diplomatique et d'archivistique à l'École des Chartes, à l'Institut de France. Il avait été chargé du contrôle du musée du château de Langeais de 85 à 91, puis conservateur du musée Jacquemart-André en l'abbaye royale de Chailly. Nous avons aussi à déplorer le décès de trois correspondants. Le 2 décembre 2009 est décédé à Tokyo le professeur Ikuo Hirayama, élu correspondant étranger de l'Académie en 99, spécialiste de la transmission du bouddhisme en Asie. Dans ses expressions textuelles et artistiques, c'était un grand ami de la France, un bienfaiteur de l'Académie, où il avait fondé en 1999 un prix annuel destiné à encourager les études sur l'Extrême-Orient. Le 20 février 2010 est disparu Georges Charachidze, élu correspondant en mars 1999, professeur émérite à l'INALCO, où il enseigna le géorgien durant 30 ans. Il était le meilleur connaisseur des langues et civilisations du Caucase. Enfin, tout récemment, le 9 octobre, est décédé M. Jean Génisson, correspondant depuis 1987, renommé pour ses travaux sur les sociétés françaises et italiennes du XIVe siècle. Il fut pendant plus de 20 ans directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Cruellement frappé par la perte de ses savants français et étrangers, l'Académie, résolument fidèle à son devoir d'immortalité, a pourvu au remplacement de plusieurs fauteuils demeurés vacants en élisant un nouvel académicien, et 4 associés étrangers. Le 5 février 2010, elle ouvrait ses portes au professeur Charles de Lamberterie, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de grammaire, doctoresse lettres, et est à la fois directeur d'études de grammaire comparée des langues indo-européennes à l'École pratique des hautes études et professeur d'histoire de langue grecque à la Sorbonne, linguiste de la lignée d'Antoine Meillet, d'Émile Babinis, de Michel Lejeune, il est le connaisseur éminent du Mycénien, un arménologue de grand renom. Le 6 avril 2010, ont été élus associés étrangers le romaniste suisse Max Pfister, professeur émérite de l'UFC de Saarbrück, ainsi que le professeur Lelia Cracco-Ruccini, de l'Université de Turin, spécialiste de l'économie et de la société italienne de l'Antiquité tardive. Plus près de nous, l'Académie a également élu professeurs étrangers le professeur Manfred Bittak, qui fut quelque 3 décennies d'inlassable directeur de l'Institut autrichien d'archéologie du Caire, ainsi que le professeur Francisco Rico de l'Université autonome de Barcelone, philologue, historien des littératures italiennes et espagnoles depuis les derniers siècles du Moyen Âge jusqu'à l'âge classique, le plus grand spécialiste vivant de Cervantes. De l'ampleur, de la diversité des activités menées par notre Académie, rencontre mensuellement une élégante lettre d'information dont la diffusion en plein essor sur l'Internet témoigne de l'intérêt croissant porté à notre compagnie par un public cultivé qui s'élargit. 8 colloques internationaux ont illustré la position cardinale de notre compagnie le 11 décembre 2019. Une journée organisée en partenariat avec la Société asiatique sur le thème « Sourire d'Europe et d'Asie » en février 2010, dans le cadre de la saison de la Turquie en France, un colloque portant sur l'orientalisme, les orientalistes et l'Empire ottoman de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle. En février, un hommage rendu à notre confrère Gilbert Lazare à l'occasion de son 90e anniversaire. Le 19 mars, journée d'études nord-africaines sur enceintes urbaines, sites fortifiés et forteresses. En juin, une journée d'études anglo-normandes sur les stratégies, réalités linguistiques propres aux cultures anglo-françaises médiévales. En juin, la seconde des journées d'études archéonides 90-2010 qui avait débuté la veille au Collège de France. En octobre, la seconde journée du colloque René Chartier, 1572-1654, éditeur d'Hippocrate et de Galien, ses sources et ses influences, lancé la veille à la faculté de médecine de Paris 5. En octobre, enfin, le 20e colloque de la Villa Kérylos, qui portait sur histoire et archéologie méditerranéenne sous Napoléon III. En marge de cet ensemble de manifestations scientifiques organisées ou co-organisées par l'Académie, plusieurs cérémonies, réunions, rencontres ont constitué autant de temps forts de notre calendrier académique. Participation au rendez-vous des sciences humaines, installation de Sa Majesté Sorodom Sihamoni, roi de Cambodge, élu associé étranger de l'Académie d'inscription le 6 juin 2008. En mars 2010, accueil du ministre de la Culture soudanais, Mohamed Youssef Abdellah, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition du musée du Louvre, Méroé, un empire sur le Nil. En septembre, hommage rendu à Jean-François Champollion lors de la journée du patrimoine. En septembre 2010, accueil du président de la République italienne, son Excellence M. Giorgio Napolitano. En octobre 2010, réunion annuelle du Bureau de l'Union Académique Internationale. Elle fallait assumer un rôle d'incitation à la recherche au moyen des prix qu'elle décerne. L'Académie se distingue également par son inlassable activité d'édition qui en fait un des grands centres de publication scientifique français. Durant l'an dernier, ce ne sont pas moins de 26 ouvrages qui sont sortis des presses. 7 livraisons d'écart, 2 fascicules du Journal des Savants, 1 volume de Monuments Pio, 4 mémoires, 1 fascicule du Corpus Vasoromantique Rome, 1 tome du recueil des historiens de la France dans la série des Hommes de fer. Quatre nouveaux volumes sont également venus compléter la carte archéologique de la Gaule, Morbihan, Reims, Drôme, Alpes-Maritimes. Et un autre a fait l'objet d'une réédition. Cela encore, un total de 3000 pages éditées. Enfin, divers colloques ont été publiés. Journée d'hommage au regretté François Chamoux. Ton champ Mabillon, figure majeure de l'Europe des lettres. Les monuments et les cultes funéraires d'Afrique du Nord. Les sanctuaires et leur rayonnement dans le monde méditerranéen d'Antiquité à l'époque moderne. Les textes de Nag Hammadi, histoire des religions et approche contemporaine. Pour achever la présentation de ce bilan honorable, je souhaiterais mentionner que la mise en ligne sur le portail percé de l'intégralité de nos comptes rendus pour les années 1857-2005 est désormais effective, ce qui représente un total époustouflant de 100 000 pages, mais aussi qu'un premier lot de fascicules que le journal des savants est également accessible. Avant de céder la balle à notre vice-président, je souhaite former des vœux ardents pour que notre esprit académique mêlant harmonieusement savoir, curiosité inlassable, foi dans l'avenir, puisse continuer encore longtemps à rajeunir, malgré son grand âge, les esprits et les cœurs de tous ceux qui portent leur regard vers le passé, dans l'espoir d'en retirer cette part d'éternité que confèrent l'érudition et ses messages universels.
Monsieur Michel Zinc, vice-président, donne lecture du palmarès 2010 et proclame la liste des nouveaux archivistes paléographes.
Jugement des concours. Prix Ambatielos. Ce prix a été décerné à monsieur Christophe Feyel pour son ouvrage intitulé « Dokimassia, la place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques ». Concours des antiquités de la France. La première médaille a été attribuée à Madame Aline Magnien pour son ouvrage intitulé « Saint-Riquier, une grande abbaye bénédictine ». La deuxième médaille a été attribuée à Monsieur Marc-Édouard Gauthier pour sa direction de l'ouvrage intitulé « Splendeur de l'enluminure, le roi René et les livres ». La troisième médaille a été attribuée à Monsieur Joseph Bergin pour son ouvrage intitulé « Church, Society and Religious Change in France, 1580-1730 ». Prix Émile Benveniste. Ce prix a été décerné à M. Romain Garnier pour l'aider à publier sa thèse de doctorat soutenue à l'École pratique des hautes études sur le vocalisme du verbe latin, études synchroniques et diachroniques. Prix Bordin. Ce prix a été décerné à M. Jörg Fündling pour son ouvrage consacré à Marc Aurel, Kaiser und Philosoph. Prix du budget. Ce prix a été décerné à M. Jean Flory pour son ouvrage intitulé « L'islam et la fin des temps, l'interprétation prophétique des invasions musulmanes dans la chrétienté ». Prix Burkhardt. Ce prix a été décerné à M. Antoine Hermary pour soutenir ses recherches sur le site d'Amatonte, Chypre, et en particulier pour aider à la publication de plusieurs de ses monuments. Prix Joseph Carroll pour les études américanistes. Ce prix a été décerné à Madame Chloé Andrieux pour son projet intitulé « La valeur du jade, étude des échanges de biens de prestige chez les Mayas à l'époque classique, 250-950 après Jésus-Christ ». Prix Joseph Carroll pour les études asiatiques. Ce prix a été décerné à Madame Lauriane Sève-Martinez pour soutenir les recherches qu'elle conduit sur la civilisation séleucide en Iran et dans l'Asie centrale, en contribuant notamment à la publication d'une monographie sur le temple à Redan d'Aïranoum. Prix de la Fondation Louis de Clair. Ce prix a été décerné à Monsieur Jean-Luc Biscop pour soutenir les travaux qu'il conduit sur le site de Saint-Siméon le Stylite à Kalatseman, Syrie. Prix Delalande Guérineau. Ce prix a été décerné à M. Robert Buravois pour son ouvrage intitulé « Armurier du Japon, 16e-18e siècle, étude du Meikozukan ». Prix Drouin. Ce prix a été décerné à M. Abdelhamid Fenina pour le tome 2 de l'ouvrage intitulé « Numismatique et histoire de la monnaie en Tunisie », consacré aux monnaies islamiques. Prix du Chalet. Ce prix a été décerné à M. Franz Fugue pour son ouvrage intitulé « Corpus of the Numismata from Anastasius II to John I in Constantinople, 713-976. Structure of the Issues, Corpus of Coin Finds, Contributions to the Iconographic and Monetary History. » Prix de la Fondation Paul Duménil. Ce prix a été attribué à M. Alexandre Farnoux pour l'aider à poursuivre ses travaux sur les villes du Mirambello, Crète orientale. Prix Raoul du Seigneur. Ce prix a été décerné à M. Cyril Hayet pour son ouvrage intitulé « Les mots arabes, christianisme, islamisation et arabisation en péninsule ibérique, 9e-12e siècle ». Prix Louis Fult. Ce prix a été décerné à M. François Avril pour l'ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour sa collaboration scientifique à l'ouvrage intitulé « Splendeur de l'enluminure, le roi René et les livres ». Prix Roman et Tania Girsman. Ce prix a été décerné à M. Valentin Skoda pour son ouvrage portant sur les temples de Penjikent et les problèmes de la religion sogdienne, 5e-7e siècle. Prix Gobert. Le premier prix a été décerné à M. Laurent Vissière pour son ouvrage intitulé « Sans point sortir hors de l'ornière, Louis II de la Trémouille, 1460-1525 ». Le deuxième prix a été décerné à M. Jean-François Dubost pour son ouvrage intitulé « Marie de Médicis, la reine dévoilée ». Prix Ikuo Hirayama. Ce prix a été décerné à M. Jean-Claude Martzloff pour l'ensemble de ses travaux sur l'histoire des mathématiques chinoises. Prix de Yost. Ce prix a été décerné à M. Jean Guillaume pour son ouvrage intitulé « Jacques Androuet du Cerceau, un des plus grands architectes qui se soit jamais trouvé en France ». Prix Stanislas Julien. Ce prix a été décerné à M. James Rodson pour son ouvrage intitulé « Power of Place, The Religious Landscape in the Southern Sacred Peak, Nanyue, in Medieval China ». Prix de la Fonce Mélicoque. Ce prix a été décerné à M. Philippe Sédoux pour son ouvrage intitulé « Châteaux et gentilhommières des Pays de l'Oise, tome 1, Beauvaisis, tome 2, Valois ». Prix de la Grange. Ce prix a été décerné à l'édition en 6 volumes du « Devisement du monde » de Marco Polo, publié sous la direction de M. Philippe Ménard. Prix de la Fondation Raymond et Yvonne Lantier. Ce prix a été décerné à Mme Caroline Petit pour son édition du volume de Galien intitulé « Le médecin, introduction ». Prix du Duc de Louba. Ce prix a été décerné à M. Yon Landaburu pour l'ensemble de son œuvre portant sur les langues indigènes d'Amérique du Sud. Prix Antoine Meillet. Ce prix a été décerné à M. Alain Le Maréchal pour son ouvrage intitulé « Comparative Grammar and Typology, Essays on the Historical Grammar of the Austronesian Languages ». Prix Gustave Mindel. Ce prix a été décerné à M. Jean-Marc Luce pour son ouvrage intitulé « L'ère du pilier des Rhodiens, fouilles 1990-1992 à la frontière du profane et du sacré ». Prix Georges Perrault. Ce prix a été décerné à M. Yann Le Boeck pour son ouvrage intitulé « L'armée romaine dans la tourmente, une nouvelle approche de la crise du IIIe siècle ». Prix Plotel. Ce prix a été décerné à M. Dario Mantovani pour soutenir les activités et publications du CEDANT, Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi de Pavie, dont il est le directeur. Prix Gabriel Auguste Pro. Ce prix a été décerné à M. Jean Coudert pour son ouvrage intitulé « Les rapports de droit de la Moselle romane, 13e, début du XVIIe siècle ». Prix Jean Reynaud. Ce prix a été décerné à Mme Claire Aquicot-Brisset pour son ouvrage intitulé « À la croisée du texte et de l'image, passages cryptiques et poèmes cachés, hachidés, dans le Japon classique et médiéval. Prix Saint-Ours. Ce prix a été décerné à Madame Marcel Saint-Don pour son ouvrage intitulé « Trois manifestations de Vishnu, le sanglier, l'homme-lion, le nain, les récits du Harivamsa ». Prix Schlumberger. Ce prix a été décerné à M. Frédéric Alpi pour son ouvrage intitulé « La route royale, Sévère d'Antioche et les églises d'Orient, 512-518 ». Prix Max Serre. Ce prix a été décerné à M. Frédéric Guyot pour l'aider à la publication du matériel céramique du site de Telliswede, delta du Nil. Attribution des bourses. Bourse de la Fondation Jacques Vendier. Cette bourse a été partagée entre M. Julien Siès pour l'aider à achever sa thèse de doctorat sur la 13e dynastie, aspects politiques, économiques et sociaux, et Mademoiselle Marilyn Cellier pour l'encourager dans la préparation de sa thèse de doctorat portant sur l'albâtre en Égypte ancienne. Prix de l'Institut de France, décerné sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou avec le concours de membres de l'Académie. Prix Colette Kaya. Ce prix a été décerné à Madame Julia Hegewald pour ses deux ouvrages, intitulés respectivement « Water Architecture in South Asia, A Study of Types, Developments and Meanings » et « Jaina Temple Architecture in India, The Developments of a Distinct Language in Space and Ritual ». Grand prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca. Ce prix a été décerné à la mission archéologique de Haïdra Amedara, Tunisie, dirigée par Messieurs François Barat et Fatih Bejaoui. Prix Jean-Édouard Gobi. Ce prix a été décerné à M. Bernard Maury pour couronner l'ensemble de ses travaux sur les palais et résidences privées du Caire d'époque mamelouk et ottomane, restauration et publication de monographies. Délivrance des diplômes d'archiviste paléographe. En exécution des prescriptions d'une lettre du ministre de l'Instruction publique, notifié le 8 février 1833. L'Académie déclare que les élèves de l'École nationale des chartes qui ont été nommés archivistes paléographes par arrêté ministériel du 1er octobre 2010, conformément à la liste dressée par le conseil scientifique de cette école, sont, par ordre de mérite, M. Romain Legendre, Mademoiselle Anne Lambert, M. Vivien Richard, M. Cyprien Henry, Mademoiselle Marion Lutz, Mademoiselle Alice Billard, Mademoiselle Marine Rijade, Monsieur Thibault Billoir, Mademoiselle Amandine Artaud, Mademoiselle Caroline Vran, Mademoiselle Amandique Postec, Mademoiselle Marie Galvez, Monsieur Cyril Dède, Mademoiselle Pauline Chounier, Mademoiselle Marion Bernard, Monsieur Rémi Verdeau, Mademoiselle Sabine Maffre, Monsieur Julien Sempéré, Monsieur Léonard Bourlet, Monsieur Jérôme Schweitzer, Mademoiselle Marie Laperdrie, Monsieur Bertrand Caron, Mademoiselle Elsa Courbin. Hors rang, Monsieur Aloïs Derboul, Mademoiselle Marianne Domergue, Mademoiselle Cécile Roger, Monsieur Olivier Wagner. À titre étranger, Monsieur Pierre Dehove.
L'Asie, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'École française d'Extrême-Orient. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Europe occidentale tourne ses regards vers l'Orient. Le regard des sciences de l'érudition, regard scientifique par excellence, motivé par la seule soif de connaissances exactes, porte loin. La petite académie de 4 membres qui, en février 1663, reçurent de Colbert la charge de donner leur avis sur toute chose qui regarde les bâtiments et où il peut entrer de l'esprit et de l'érudition, n'eut de cesse de s'agrandir pour accéder au vaste champ de l'histoire de toutes les créations humaines. Au XVIIIe siècle, nos grands ancêtres avaient déjà une vue universelle. Nicolas Fréret lit en 1714 un mémoire sur l'origine des Francs, alors qu'en même temps, il s'initie au chinois auprès d'Arcade Wang, un jeune lettré chinois converti par des missionnaires et amené en France. et tout au long du siècle des Lumières, les fenêtres n'ont cessé de s'ouvrir sur l'Orient le plus lointain. Comment, à cette époque, depuis Paris, s'informait-on sur des civilisations éloignées dans l'espace et le temps, des récits de voyageurs, des correspondances avec des résidents en terres lointaines, missionnaires, commerçants et aventuriers? Quelques objets importés étaient la seule source. La documentation restait cependant rare. Et quand un apport substantiel de livres chinois et de manuscrits sanscrits à la bibliothèque du roi fut réalisé par les efforts de l'abbé Bignon, il y avait encore trop peu d'instruments de recherche pour que puisse suivre une véritable exploitation scientifique. La spéculation a parfois comblé les vides de la documentation. On doit à Joseph de Guigne, professeur en langue syriaque au Collège royal de France, quelques découvertes historiques fondamentales telles que le synchronisme de Séleucos et Chandragupta, base de la chronologie ancienne de l'Inde. On voit aussi qu'il a lu le 14 novembre 1758 dans notre académie un, je cite, « mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne ». Correspondance et relations de voyage ne suffisent pas. Anquetil du Perron a eu le génie de concevoir à l'aube de sa carrière la profession d'orientaliste voyageur. Cet aventurier de la recherche rêvait d'une académie ambulante qui épargnerait aux chercheurs les difficultés matérielles, lui assurerait sécurité et logistique sur tous ses terrains d'études et centraliserait les connaissances. Il fallut attendre près d'un siècle pour que le rêve devienne réalité. Cela se fit dans notre académie par la création de 5 écoles à l'étranger : Athènes, Rome, Vélasquez, Le Caire, l'Extrême-Orient. Ce sont autant d'antennes de notre institution parisienne sur des terres dont elle a cessé d'entreprendre l'exploitation historique et monumentale, où se sont formées et ont œuvré des générations des meilleurs chercheurs, où se sont construits des instruments de travail de plus en plus performants. Les dernières années du XIXe siècle ont vu la convergence d'orientalistes de l'Académie et d'administrateurs des régions que l'on appelait alors l'Indochine vers l'idée d'installer sur place un centre d'études des civilisations locales et de conservation des monuments. Les 3 dernières décennies du XIXe siècle avaient fait prendre conscience de l'existence et de l'importance du patrimoine artistique et intellectuel de ces pays. Les premiers documents, sculptures, dessins de monuments, manuscrits et copies d'inscriptions permettant d'en étudier l'histoire étaient parvenus à Paris. Mais dorénavant, on voulait qu'ils ne soient plus séparés de leur environnement. On savait que sur les sites, l'on pouvait rencontrer les informateurs les plus avertis, brahmanes, pandites, religieux, bouddhistes, lettrés vietnamiens, lettrés chinois. On prenait enfin conscience de l'existence dans le voisinage des grandes civilisations, d'un grand nombre de populations aux langues, aux organisations sociales, aux modes de vie originaux. Il fallait organiser les nouvelles perspectives de recherche en un réseau de programmes scientifiques et dans de multiples disciplines. Michel Bréal, Auguste Barthes, Émile Senard ont été des savants du XIXe siècle. Ils ont eu le grand mérite de concevoir les nouvelles orientations qui feront travailler tout le XXe siècle. Ils ont été aussi à l'origine de l'institution qui a permis à leurs disciples de les mettre en œuvre. Des propositions de l'Académie émises le 9 décembre 1898 furent communiquées à Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, qui installa d'abord une mission archéologique permanente à Saïgon, puis lui donna le nom d'école française d'Extrême-Orient qu'elle porte encore. Cette école fut définitivement institutionnalisée par un décret du président de la République, Émile Loubet, le 26 février 1901, et bientôt installée à Hanoï. Son programme scientifique général concerne d'abord 4 disciplines: archéologie, épigraphie, linguistique, ethnographie. Le domaine à étudier est l'Indochine de l'époque. L'idée directrice est d'en expliquer la culture par les influences fondamentales des 2 grandes civilisations de l'Asie, la civilisation indienne qui a donné le sanskrit et ses religions à toute l'Asie à l'est de l'Iran, la civilisation chinoise qui a pénétré le Vietnam. Les premiers membres seront donc indianistes et sinologues, Louis Finot, Alfred Fouché, Paul Pelliot, Henri Maspero. Les missions en Inde, en Chine, au Japon se multiplient rapidement. Des antennes se créent successivement au cours d'une histoire de plus d'un siècle. Aujourd'hui, l'École française d'Extrême-Orient a 42 chercheurs permanents dans 17 centres, répartis dans 12 pays d'Asie. Pune, Pondichéry, Rangoon, Bangkok, Chiang Mai, Vientiane, Phnom Penh, Siem Reap, Hanoï, Kuala Lumpur, Jakarta, Pékin, Hong Kong, Taipei, Séoul, Kyoto, Tokyo. Son domaine est une grande moitié de l'Asie. Elle y pratique toutes les approches de l'homme, de ses activités et de ses créations. Géopolitique, anthropologie, ethnographie, archéologie, épigraphie, iconographie, histoire de l'art, histoire des religions, histoire des sciences, histoire littéraire, philologie, linguistique. La présence sur place du chercheur le confronte à l'environnement de l'objet qu'il étudie. Ce n'est plus une image, une inscription, un manuscrit qu'il observe. C'est un filet aux multiples mailles de données reliées entre elles. Le monument est vu dans un paysage. On explore une forêt pour retrouver un plan de ville. On voit l'artisan en même temps que le matériel de la vie quotidienne du village, l'artiste en même temps que le décor qu'il crée, le prêtre officiant dans l'édifice religieux et ses fidèles. On vise à saisir la globalité des données géographiques, sociales, historiques, patrimoniales, matérielles et immatérielles. L'institution, centrée sur le terrain, construit des réseaux de collaboration et d'échanges entre chercheurs étrangers et locaux. Les travaux de l'École française d'Extrême-Orient trouvent actuellement leur cohérence autour de plusieurs thèmes transnationaux à définition large. Corpus du monde indien, histoire culturelle et anthropologie des religions en Asie orientale, cités anciennes et structuration de l'espace en Asie du Sud-Est, pouvoir central et résilience du local, transmission et inculturation du bouddhisme en Asie. La dispersion des postes requiert une administration et une direction scientifique centrale. L'École française Extrême-Orient est placée sous la tutelle administrative du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il lui faut aussi son propre point de ralliement. Elle a un 18e centre à la Maison de l'Asie à Paris où fonctionnent ses services centraux d'administration et de documentation. Archives, bibliothèques, photothèques, collections d'estampages, d'inscriptions et de manuscrits, un trésor unique de documentation sur l'Asie. Ce centre parisien est aussi un lieu de partage et de transmission des connaissances. Il organise séminaires et conférences, rassemble étudiants et chercheurs dans tous les domaines concernés, assure une liaison permanente avec son voisin, le musée Guimet, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales. Le cœur de l'École française d'Extrême-Orient est sa maison mère, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elle est en effet placée depuis l'origine sous la tutelle scientifique de notre Académie, qui a une fonction statutaire de contrôle d'établissements de recherche à l'étranger. Elle a compté parmi ses membres ou correspondants les fondateurs, la plupart des directeurs et tous les chercheurs qui ont illustré l'institution. Georges Sédès, Louis Finot, Jean Filioza, Bernard-Philippe Grolier. Elle regroupe ainsi la connaissance des rouages de l'institution et de ses activités. Les rapports et les publications présentés en hommage dans ces séances l'informent des avancées des travaux scientifiques. Il n'y a pas d'autre centre que l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou l'École française d'Extrême-Orient soit mieux connue et mieux comprise. L'École française d'Extrême-Orient a connu sur un siècle une suite de crises qui ont souvent compromis les possibilités de travail sur le terrain, parfois mis l'existence de tel ou tel centre en question. Notre académie est le lieu historique de la résolution de toutes les crises que l'école française Extrême-Orient a traversées. Je n'en citerai qu'une, la plus grave, l'éclatement en quatre parties, déchirement causé par la décolonisation de l'Indochine. Mon père, Jean Filioza, fut chargé, dans cette longue période de troubles, de négocier, pour le compte de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la réorganisation de l'école française d'Extrême-Orient et l'établissement de nouveaux statuts, déterminant alors le transfert du centre de gouvernance à Paris. Les réactions anti-occidentales, l'état de guerre au sortir de la colonisation, ont parfois limité sa présence et ses activités, mais ne les ont jamais arrêtées. La dictature des Khmers rouges a interrompu ses travaux au Cambodge. Ils ont repris, dès le retour à une situation normale, avec la recherche et l'édition des manuscrits bouddhiques dispersés, la reprise de la conservation d'Angkor, la réouverture du Vietnam, et tout ceci à la demande des autorités nationales et en parfaite coopération avec les scientifiques nationaux. Si l'école française Extrême-Orient a pu traverser une aussi longue histoire, c'est aussi parce que les travaux qu'elle a menés se sont inscrits dans la longue durée. Bernard-Philippe Grolier a ouvert le chantier d'anastylose du Bapouan, monument du Cambodge, un des plus grands du monde, au début des années 1960. Il n'en a pas vu la fermeture. La guerre avait interrompu ses travaux. Il était lui-même disparu prématurément. Le chantier fut rouvert en 1992. Il arrive à son terme en cette année 2010. L'avenir est toujours un défi. Comment peut-on l'envisager aujourd'hui ? L'évolution du monde requiert à la fois de nouvelles orientations scientifiques, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle quand, au prix de voyages aventureux, on accédait à une infime documentation. Aujourd'hui, le monde est proche et offre une masse océanique de documents. Le XXe siècle a répondu à la tâche par la spécialisation. Le chercheur est alors resté trop individualiste. Aujourd'hui, on ne peut plus se croire seul dans une spécialité. L'on comprend qu'il est bon d'élargir son champ d'enquête. On se rattache à une thématique. Le XXIe siècle sera celui de travaux d'équipe, de publications collectives, de colloques. Il faut aussi prendre en compte l'internationalisation croissante des études. Les institutions elles-mêmes cherchent à s'inscrire dans des réseaux plus larges. L'École française d'Extrême-Orient, sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a pris en 2007 l'initiative d'organiser un consortium européen pour la recherche sur le terrain en Asie. Les institutions qui le composent, 45 à la date d'aujourd'hui, dont 33 dans 10 pays d'Europe et 12 associées dans 10 pays d'Asie et en Russie, s'allient entre elles pour lancer des programmes de portée innovante. Face à l'accroissement de la bibliographie, face à la montée de la documentation, la réponse est le recours aux nouvelles technologies de l'information. Le XXIe siècle sera le siècle des bases de données. Le bulletin de l'École française Extrême-Orient est maintenant accessible sur le site Percé, à côté des comptes rendus des séances de l'Académie. Les projets des chercheurs actuels commencent par la construction de corpus numériques. L'archéologie, la préhistoire, la conservation des monuments, des œuvres d'art et des manuscrits sont les premières bénéficiaires des nouvelles technologies. Les scientifiques ne se désintéressent pas du passé de leur discipline. Les contacts et collaborations dans le domaine de l'histoire des sciences, particulièrement difficiles en Asie, sont devenus une nécessité. Le fait le plus notable est la convergence des idées dans le cadre d'une écologie généralisée. L'évolution globalisante actuelle a amené le monde d'aujourd'hui à prendre conscience des menaces qui pèsent sur la diversité des espèces vivantes et tout autant sur la diversité des langues et des cultures. Une priorité de la recherche est l'analyse fine de ce dont la disparition prochaine se dessine. Il y a une ethnographie de sauvetage à mettre en œuvre, principalement dans les grandes puissances émergentes, ethnographie sociale, médicale, linguistique, folklorique, musicale, liée à une ethnographie du milieu naturel. Toute culture est intimement liée à un environnement naturel. L'objet véritable de toute écologie est l'équilibre du naturel et du culturel. L'histoire montre comment se réalisent et se détruisent ces équilibres. Ce regard conjoint sur nature et culture détermine de nouvelles orientations scientifiques dont les objets sont la relation de l'homme avec son environnement naturel, sa dépendance par rapport à lui, son action sur lui, les implantations urbaines, agricoles, la gestion de l'eau. En fait, le rôle de notre académie n'a pas changé depuis Colbert. Elle exerce son rôle de conseil, d'exploration des voies de la science. De décade en décade, son regard s'affine et porte toujours sur du nouveau, car les choses changent. Aujourd'hui, elle demande un esprit de plus en plus interdisciplinaire et une érudition qui se porte sur toutes les créations humaines de l'espace et du passé dans leur environnement. Notre antenne, l'École française Extrême-Orient, regarde l'Asie, autrefois lointaine, aujourd'hui toute proche, dans tout son vaste espace et tout son riche passé. AIBL et FEO sont deux sigles conjoints. Ils représentent une structure dont le caractère essentiel est l'ouverture sur le monde et sur son avenir. C'est une conjonction qu'il importe de renforcer. Monsieur André Vaucher, membre de l'Académie, donne lecture de son discours intitulé « L'école française de Rome entre tradition et modernité ».
L'école française de Rome a été fondée entre 1873 et 1875 par le gouvernement de la Troisième République afin de permettre à 6 jeunes chercheurs, aujourd'hui 18, choisis parmi les diplômés de l'école des hautes études et les anciens élèves de l'école normale supérieure et de l'école des chartes, de séjourner sur les bords du Tibre pendant 2 ou 3 années, afin d'y poursuivre des études sur l'Italie, le monde romain et Rome même. D'abord simple section de l'école d'Athènes, l'école de Rome devint rapidement autonome et ne tarda pas à s'installer au palais Farnèse, qu'elle partageait et partage toujours avec l'ambassade que la France venait alors d'ouvrir dans la nouvelle capitale du royaume d'Italie. L'école ne dépendait pas d'un rectorat, mais directement du ministère de l'Éducation nationale sur le plan administratif. Elle était placée sous la tutelle scientifique de l'Institut, en particulier de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont la quasi-totalité de ses directeurs ont été membres. La création de cette école, à une époque où notre pays se relevait à peine des désastres de la guerre de 1870, est liée à une prise de conscience de la part des élites intellectuelles et politiques françaises, de la supériorité dans tous les domaines de ce qu'on appelait alors la science allemande, considérée comme une des causes de notre défaite, et de la nécessité de remédier aux carences de la recherche scientifique dans notre pays. En outre, l'Allemagne avait créé à Rome un important institut archéologique. La France devait en faire autant, sous peine de perdre son influence culturelle en Italie. Mais comme l'écrivait dès les années 1890 un de ses directeurs, Auguste Geoffroy, nous nous appelons École française de Rome et non École d'archéologie. Nous sommes une école d'érudition dont le cadre paraît devoir se modeler d'après les ressources très variées qu'offrent non seulement le sol, mais les bibliothèques et archives d'Italie. De fait, l'archéologie française ne put guère se développer sur le sol italien, sinon sous la forme de prospections ou de relevés architecturaux, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Car le jeune État italien, plus encore le fascisme, se montrait hostile à la présence de fouilles étrangères dans le pays. La plupart des archéologues de l'école durent alors exercer leur talent en Afrique du Nord, en particulier en Tunisie et en Algérie, où ils jouèrent un rôle fondamental dans l'exhumation et l'étude des inscriptions et des monuments romains. En revanche, l'ouverture aux chercheurs de la bibliothèque et des archives du Vatican en 1881, donna une impulsion décisive aux recherches dans le domaine de l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est à ce moment-là que commencèrent le dépouillement des registres des quelques 300 000 lettres envoyées par les papes des XIIIe et XIVe siècles dans toute la chrétienté et la publication de la plupart d'entre eux, vaste entreprise, commencée donc à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui en voie d'achèvement, puisque deux CD-ROM contenant ces précieux textes ou leurs analyses ont été réalisés par l'école depuis 2002. Ainsi, dès le tournant des années 1900, la mission de l'école se trouva définie en des termes qui n'ont guère varié depuis. Développer les recherches sur toutes les civilisations qui se sont succédées en Italie ou dont Rome a été le centre de rayonnement, qu'il s'agisse de l'Antiquité, dont l'étude a toujours été prépondérante au Farnèse, du Moyen-Âge et de l'époque moderne, dans le domaine de l'histoire, de la philologie latine et plus largement de l'érudition humaniste sous toutes ses formes. L'extrême variété des centres d'intérêt de ses directeurs, l'histoire de l'Église ancienne avec Mgr Duchesne, 1895-1922, celle de l'art médiéval avec Émile Malle, 1923-1937, de la Rome républicaine et impériale avec Jérôme Carcopino, 1937-1940, ainsi que le niveau scientifique très élevé de ses membres, dont les recherches faisaient et font encore l'objet d'un mémoire soumis à l'appréciation de l'Académie, suivi d'un rapport publié dans les CRAI, contribuèrent à faire de l'École de Rome un haut lieu scientifique dans l'entre-deux-guerres. C'est là que se formèrent alors des savants comme Alphonse Dupron ou Henri-Irénée Maroux, Pierre Boyancé et Pierre Courcelles, Jeanne Vieillard et Félix Graff, fondateur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS, et tant d'autres dont l'œuvre et l'action devaient marquer profondément l'école historique française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après une période de fermeture due aux hostilités entre 1940 et 1944, l'École française de Rome reprit son activité et put enfin ouvrir des chantiers de fouilles archéologiques en Italie même, sur des sites aussi variés que Bolsena en Étrurie, Megara Iblea en Sicile, Marzabotto en Émilie, tout en restant fidèle à sa vocation nord-africaine. Mais dès la fin des années 60, il apparut nettement que les temps avaient changé et que l'école devait évoluer si elle devait survivre. Elle se trouvait d'abord à l'étroit dans ses locaux du Palais Farnèse. En 1966, Pierre Boyancé fit l'acquisition d'un palazzo délabré situé sur la place Navone, en plein cœur de Rome, qui fut restauré au début des années 70, ce qui allait permettre à l'école de se développer sans avoir à quitter le centre historique. Ce tournant décisif fut surtout l'œuvre de Georges Vallée, directeur de l'école de 1970 à 1982, qui eut le mérite de comprendre que celle-ci devait s'ouvrir à l'Italie et aux Italiens, parmi lesquels on comptait nombre d'historiens et d'archéologues de valeur, avec lesquels il fallait désormais développer des rapports non plus seulement de bon voisinage, mais de collaboration d'égal à égal. Sous l'impulsion de Noël de la Blanchardière, qui la dirigea pendant près de 40 ans, la bibliothèque de l'école, dont l'accès était jusque-là réservé aux membres et à quelques rares savants étrangers, s'ouvrit aux chercheurs italiens et fut considérablement développée. Elle compte aujourd'hui près de 200 000 volumes et reçoit chaque année entre 20 et 25 000 lecteurs. Comme l'a écrit un journaliste de talent, Bruno Frappa, qui la visita en 2002, je cite, « Sous les plafonds magnifiques du Palais Farnèse, à l'École française de Rome, des chercheurs aux visages graves, des stagiaires vénards, des étudiants sérieux, compulsent d'austères études sur le monde qui fut. Archéologues, historiens, ils creusent le sillon dans les pages des livres écrits avant ce qu'ils préparent. Les rayonnages du Palais Farnèse sont une ville de mots, comme les rues d'Ostie, une ville de pierre. Rome, décidément, est une leçon sans fin. » En 1972, l'école fut divisée en trois sections, Antiquité, Moyen-Âge, Histoire moderne et contemporaine, dirigées chacune par un directeur des études, assisté d'un secrétariat. Et en 1990, elle s'ouvrit aux sciences sociales, géographie, sociologie, démographie, etc., ce qui allait permettre à ses chercheurs de s'intéresser non seulement au palais prestigieux du centre de Rome ou à la campagne romaine, mais aussi à ses borgate, c'est-à-dire ses banlieues, ou à l'immigration balkanique et slave, qui s'est considérablement développé en Italie depuis une trentaine d'années, avec de profondes répercussions sociales et politiques. Parallèlement, l'école s'adapta aux mutations qui marquèrent les universités françaises, de plus en plus orientées vers la recherche. À partir de 1975, elle accueillit de nombreux boursiers, tant français qu'étrangers, dans ses locaux de la place Navone, qui, avec les services administratifs, celui des publications et les laboratoires archéologiques qu'elle abrite, est devenu progressivement le second pôle de l'école. Dans les mêmes années, après s'être dotée d'un service de publication, celle-ci est devenue une importante maison d'édition. Elle publie chaque année une trentaine de volumes, dont trois séries de mélanges correspondantes à chacune des sections. Les thèses de ses membres, dans le cadre de la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, ainsi que les volumes de sa collection, où paraissent les actes des colloques qu'elle organise, des publications de fouilles et des travaux concernant ses domaines d'activité produits par des chercheurs extérieurs à l'institution après approbation par ce conseil scientifique. Enfin, en passant des conventions avec un certain nombre d'universités et de grands établissements, ainsi qu'avec le CNRS, l'école a trouvé une bonne insertion dans le dispositif de recherche français dans le domaine des sciences humaines et sociales, où elle joue un rôle d'interface avec les universités, les centres de recherche et les instituts archéologiques en Italie et dans un certain nombre de pays méditerranéens où elle intervient activement. Depuis lors, certaines évolutions se sont fait jour. Dotée de nouveaux statuts en 1996, qui consacraient le rôle prépondérant de notre académie dans le choix du directeur et dans ses conseils, l'École française de Rome est restée fidèle à la ligne inaugurée dans les années 1970, en s'ouvrant davantage à l'étude du droit romain antique et médiéval, à la faveur du dépôt dans ses locaux de la bibliothèque du grand historien du droit Edoardo Volterra. Dans le sous-sol du palais Farnèse a été réalisé un entrepôt qui a permis de faire face, au moins pour un temps, à l'augmentation du nombre de livres de la bibliothèque qui s'accroît chaque année de plus de 2000 unités. Le processus d'informatisation de son fichier a été mené à bien, la plupart des volumes ayant été numérisés entre 1995 et 2010, ce qui a permis le versement de nombreux titres nouveaux dans le catalogue online du SUDOC, réseau interuniversitaire français auquel la bibliothèque du Farnèse est désormais rattachée. Dans le domaine archéologique, l'école a ouvert pour la première fois dans son histoire des chantiers de fouilles au cœur de Rome, en collaboration avec la surintendance archéologique, tant à la Vigna Barberini sur le Palatin que sur le Pincio, dans les jardins de la Villa Medici et sous la Trinité des Monts, et les résultats de ces travaux ont déjà été publiés dans une large mesure. Dans la ligne des programmes de recherche transversaux qu'elle avait précédemment menés à bien sur les mégapoles méditerranéennes et les sanctuaires chrétiens d'Italie, l'école a lancé en 2006, à l'occasion de la rénovation de son annexe, une vaste enquête sur la genèse et l'évolution d'un quartier romain, celui de la place Navone, du stade de Domitien à la Piazza Navona du XVIe siècle, en collaboration avec l'École espagnole d'archéologie et la surintendance archéologique de Rome, mais aussi d'historiens spécialistes de la Rome médiévale et moderne, ce qui devrait permettre d'étudier dans la longue durée le mécanisme des transformations urbaines dans une zone de la ville jusqu'ici peu étudiée. L'influence de l'école s'est également accrue en Italie du Sud du fait de l'établissement de liens organiques plus étroits avec le centre Jean Bérard de Naples, unité de service et de recherche du CNRS, qui déploie une grande activité en matière de fouilles et de publications en Campanie et en Pouille. Hors de l'Italie, les liens anciens qui existaient avec les instituts du patrimoine tunisien et marocain ont été renoués et développés, et plusieurs chantiers archéologiques ont été ouverts dans le Maghreb, en particulier au Maroc, au cours des dernières années. L'école a également développé ses contacts avec les pays correspondant à l'ancien Illyricum, en particulier la Croatie, la Serbie et l'Albanie, où des fouilles prometteuses ont été récemment entreprises dans la continuité de celles qui existaient déjà. Enfin, le rayonnement de l'école en Italie et plus largement dans toute l'Europe s'est accru à la faveur de nombreux colloques souvent marquants qui s'y sont tenus, des séminaires, des groupes de travail qui s'y rattachent, ainsi que des écoles doctorales ou sessions de formation qu'elle a hébergées. Dans la ligne de ce processus évolutif, L'école s'est ouverte à une large communauté scientifique et accueille désormais pour des séjours de moyenne durée des enseignants-chercheurs universitaires ou des chercheurs d'autres institutions qui y poursuivent leurs travaux tout en la faisant bénéficier de leur expérience et de leur savoir. Cette nébuleuse de chercheurs qui gravite autour de l'école contribue également à lui assurer à l'extérieur une visibilité très large qu'elle n'avait sans doute pas dans le passé et à faire d'elle, selon les cas, la tête ou le bras agissant de nombreux réseaux scientifiques au niveau national et international. Mais si la situation de l'École française de Rome peut paraître meilleure qu'elle n'a jamais été, il ne faut pas se dissimuler que, comme les autres écoles françaises à l'étranger, elle est arrivée à un tournant et qu'elle doit sans doute se préparer à des temps plus difficiles. La principale menace qui pèse sur elle provient de la crise actuelle de l'université, en particulier des sciences humaines dans notre pays. Dans une société comme la nôtre, tournée essentiellement vers l'avenir et qui a tendance à ignorer son passé, voire parfois même à le renier, les disciplines fondamentales de l'École de Rome, l'histoire, l'archéologie, la philologie, ne constituent plus des valeurs incontestées, ni même des références obligées dans le panorama culturel. Pour contrecarrer cette évolution inquiétante, il y aurait sans doute lieu, comme le préconise le directeur actuel M. Michel Gras dans son rapport d'activité de 2010, de développer des collaborations effectives et de longue durée avec d'autres écoles ou instituts étrangers de Rome dans le cadre de projets et de programmes scientifiques européens, d'accroître la coopération avec les écoles françaises du bassin méditerranéen et d'autres institutions de recherche à l'étranger, et de s'engager dans une démarche scientifique authentiquement pluridisciplinaire. Quoi qu'il en advienne, l'on ne peut que souhaiter à l'École française de Rome de persévérer dans sa véritable vocation, tout en sachant s'adapter, comme elle l'a fait depuis ses origines, à l'évolution des temps et des mentalités.
Monsieur Olivier Picard, membre de l'Académie, donne lecture de son discours intitulé « L'école française d'Athènes entre la Grèce et l'université française ».
L'école française d'Athènes doit sa naissance, en 1846, à deux révolutions, la révolution grecque et la révolution romantique, disait un de ses premiers directeurs. Il expliquait: l'itinéraire de Paris à Jérusalem, les orientales, en exaltant les beautés de la Grèce antique, les misères, l'héroïsme de la Grèce moderne, imposèrent à tous les esprits, à tous les cœurs, la patrie de Périclès et de l'amiral Canaris, qui s'était illustré dans la guerre de libération. Encore fallait-il orienter cette sympathie ? Sans doute sur une suggestion de Corail, l'illustre philologue grec, Sainte-Beuve propose d'aller rechercher à sa source la connaissance, le goût, l'inspiration la plus sûre de l'Antiquité grecque. L'Académie des Beaux-Arts autorise les architectes de l'Académie de France à Rome, que l'on appelle couramment la Villa Médicis, à aller chercher en Grèce le sujet de leur envoi. L'impulsion décisive, semble-t-il, fut le passage au Pirée d'un fils de Louis-Philippe à la tête d'une escadre en 1845. L'année suivante, l'école d'Athènes, l'école française d'Athènes, est créée. Le nom sonne comme un programme, revendiquant avec fierté de placer ses pas dans la lignée de la Renaissance. Entre-temps, l'université s'est affirmée. Et le projet emporte la marque. L'école doit vivifier l'étude du grec ancien par celle du grec moderne. Les meilleurs élèves de l'école normale et les jeunes architectes iront y travailler. Elle sera consacrée à l'art et à l'érudition, le mot est employé par Sainte-Beuve. Dès 1847, l'école préfigure ce qu'elle sera toujours: un institut de formation par la recherche des futurs universitaires. C'est le premier fondé par la France à l'étranger, la première école étrangère à Athènes, et même le premier établissement de ce genre au monde. L'archéologie au sens actuel n'existait pas encore. Les préludes apparaissaient dans les voyages érudits qui se développent depuis la Renaissance. Winckelmann avait placé la statuaire grecque au cœur de son analyse esthétique. Cuvier dresse les premières stratigraphies à l'origine de la préhistoire. De grandes fouilles ont commencé à Pompéi, au Proche-Orient. Mais, sauf peut-être en Allemagne, où se développe l'Altertumswissenschaft, seule la philologie constituait une discipline universitaire. L'école d'Athènes va jouer un rôle essentiel dans l'insertion de l'archéologie dans l'éventail des sciences et dans la découverte archéologique de la Grèce. Il lui fallut, pour ce faire, découvrir elle-même comment construire une politique scientifique en s'installant dans une Athènes qui est encore un village. Elle le fit en plusieurs étapes. La première, c'est le temps où le voyage érudit se transforme en inventaire de la Grèce antique. L'école l'organisa grâce à la tutelle scientifique de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui fixe le programme des explorations. Pour leur mémoire, les membres doivent étudier une région, situer sur le terrain les informations des auteurs anciens, recueillir le plus possible d'inscriptions, reconstituer la géographie historique. La fouille n'est qu'un complément éventuel, mais Ernest Beulé en montre tout l'intérêt en découvrant, sous le rempart médiéval, la porte de l'acropole que l'on appelle encore la porte Beulé. Le retentissement fut énorme et un journal parisien félicita l'école d'Athènes d'avoir découvert le Parthénon. Déjà, l'école sort des limites de la Grèce moderne. Durant sa direction, jusqu'en 1890, Paul Foucart organise l'exploration systématique de l'Asie mineure, où le suivra Louis Robert, le dernier peut-être des voyageurs érudits. La deuxième époque est celle des grandes fouilles, pour reprendre l'expression forgée pour Delphes. L'école est désormais dans ses murs, au pied du Lycabette. Depuis 1877, elle publie sa revue annuelle, le bulletin de correspondance hellénique, fondé par Albert Dumont. Les grandes fouilles furent une affaire politique. Marquée par la rivalité entre Olympie, redécouverte à partir de 1875 par l'Institut archéologique allemand, et Delphes, qui fascine très tôt l'école. Le site a le mystère, la grandeur et l'effroi du divin, disait Théophile Homol, ici même. Paul Foucart y avait découvert un nouveau tronçon du mur polygonal et à son pied le sphinx des Naxiens, ainsi que dans les caves d'une maison moderne, de mystérieux souterrains qui s'avérèrent être les fondements du temple d'Apollon. Mais il fallait racheter le village et, comme le demandaient les habitants, le reconstruire à son emplacement actuel, moins exposé aux chutes de rochers des vallons du Parnasse. Ce fut une longue affaire diplomatique. Toute l'Europe, ou presque, et l'Amérique, intervenant dans les discussions. Finalement, comme l'a relaté avec humour Pierre Amandry, des négociations où jouèrent tour à tour les droits de douane sur les raisins de Corinthe et l'appui de la France au retour de la Thessalie à la Grèce aboutirent à une convention autorisant l'école à fouiller Delphes de 1892 à 1903. 10 ans plus tard, une grande fête, solennisée par la présence de la flotte de guerre grecque et française, marquait la remise du site à la Grèce. L'exposition universelle de Paris, en 1900, décerna un prix à la reconstitution de la façade du trésor de Syphnos. La municipalité finança la reconstruction du trésor des Athéniens. À l'aube d'un siècle qui voit la naissance du tourisme, Delphes s'imposait d'emblée au premier rang des sites antiques. Notons pourtant chez les fouilleurs quelques déceptions. L'oracle d'Apollon gardait toujours son secret, soit que, comme se le demandait Émile Bourguet, les derniers païens ou les premiers chrétiens en eussent volontairement détruit les traces, soit que l'archéologie se prêta mal à l'élucidation des croyances religieuses. Pour autant, les apports à notre information furent considérables. Sans prétendre les énumérer, il suffit de constater que ce que l'archéologue sort de terre, à la différence du pétrole ou des minerais, gagne en intérêt au fur et à mesure qu'on l'étudie. Entre-temps, l'école avait commencé à explorer Délos. Il faut relire l'hymne homérique à Apollon. « L'âpre Délos, îlot rocheux bâti par les vents, n'a rien de... ni bon mouillage, ni terre fertile. Les voyageurs d'avant les fouilles le soulignent à l'envi. Il fallut le miracle de la naissance de l'archer Apollon pour que surgisse un sanctuaire, une ville, le plus grand port de l'Égée au IIe siècle. Le sanctuaire est très ruiné. Il révéla pourtant un trésor sous la forme érudite des contes du dieu, quelques 550 inscriptions enregistrant minutieusement les recettes et les dépenses du sanctuaire. La ville hellénistique attire davantage le regard. Riches maisons habitées par des financiers athéniens, des négociants italiens, des banquiers phéniciens, qui firent découvrir le luxe fait de marbre et de mosaïque de ces demeures grecques où triomphe la culture classique. La Première Guerre mondiale valut à la Grèce de rattacher à la mère patrie la Macédoine et l'Épire, un grand pas vers la réunification nationale que la Seconde Guerre permit de parachever. Cependant, la grande catastrophe réduisait l'hellénisme à la péninsule balkanique d'où il était parti quelques milliers d'années plus tôt. L'école avait pris sa part au combat, notamment en Grèce du Nord. Charles Picard, qui avait été secrétaire général de l'école avant la guerre et qui avait combattu dans l'armée d'Orient, en reçut la direction en 1919. Deux nouveaux chantiers sont ouverts, au palais Minolin de Malia et à Thasos dans le Nord. C'est le début d'un double élargissement chronologique et géographique des activités de l'école. Malia marque en quelque sorte l'entrée de l'école dans les civilisations de l'âge du bronze. On avait déjà rencontré à Delphes, à Délos, des niveaux mycéniens considérés à l'époque comme pré-helléniques, mais la formation des membres privilégiait la culture littéraire classique. L'archéologie devait s'émanciper et apprendre à forger ses méthodes. Malia fut un prodigieux chantier. Le troisième palais minoen utilisait la pierre comme soubassement, mais de génération en génération, les niveaux supérieurs étaient rebâtis de briques crues. La céramique surabondante ne pouvait être datée que par la stratigraphie. Les références n'étaient plus dans les textes, les très rares qui étaient retrouvés étaient encore indéchiffrables, mais dans des objets au style étrange qui s'expliquaient par des contextes extérieurs, notamment en Égypte. Toute une civilisation était à rebâtir, qu'avait imaginé le génial Evans. Malia apporte la nudité de ces ruines où aucune reconstruction n'a été tentée, un peu comme une contre-épreuve pour identifier les caractéristiques de la civilisation minoenne, bâtir une heuristique adaptée au monde crétois du deuxième millénaire. Thasos a conduit l'école sur les chemins peu explorés jusque-là de la Grèce du Nord et des contacts avec le royaume de Macédoine, avec les peuples thraces. Pays aux hivers rudes pour des Méditerranéens, c'est une cité classique dotée d'une agora, de temples, exploitant son vin, ses carrières de marbre, ses mines d'or et d'argent. Les historiens anciens l'ayant négligé, il revenait aux archéologues d'en faire apparaître l'originalité. Celle-ci se révèle dans les échanges avec le continent, que Thasos appelait son épire, et au-delà. La constitution de grandes séries de certains documents archéologiques, timbres amphoriques, monnaies, nous y ont guidés. La présence de l'école à Argos est le fruit d'une de ses particularités, l'existence d'une section étrangère. Ouverte en 1903, elle avait été suscitée par le désir d'hellénistes de pays proches de prendre part à des recherches originales en Grèce, ce pourquoi l'école offrait le meilleur accueil. Depuis, elle a reçu des dizaines de membres belges, suisses, mais aussi danois, bulgares, égyptiens, et un hollandais, Wilhelm Volgraaf, qui consacra l'essentiel de ses efforts scientifiques à l'exploration d'Argos. L'agora est peu à peu reconstituée au pied du théâtre, au milieu de sites mythiques où brûla, nous disent les Argiens, le premier feu allumé par l'humanité. Au-dessous, les tombes du 8e siècle, premier témoin de l'épopée homérique. Ce choix est très limité. Je n'ai parlé ni de Philippe, ni du mont Athos et des recherches sur le monde byzantin, non plus que de l'Empire romain ou des cités crétoises du haut archaïsme. Il faudrait évoquer Chypre et le palais d'Amatonte, l'Albanie et le remarquable village de bois du bronze moyen, ou bien la ville d'Apollonia, où les pas des archéologues croisent ceux du jeune Auguste, encore étudiant. L'important n'est pas dans le nombre. Chaque chantier est à sa manière un laboratoire original où membres, anciens membres, chercheurs invités travaillent avec nos amis grecs, dont plusieurs ont été par la suite associés aux travaux de notre académie, à mieux définir leurs questionnements, à forger de nouvelles méthodes. Qu'en est-il aujourd'hui ? L'hellénisme n'occupe plus la même place dans la culture de nos contemporains et l'amour du grec ne nous voudrait plus le baiser d'une précieuse. Pour autant, l'intérêt pour la Grèce se transforme plus qu'il ne faiblit. Les nouveaux moyens que procurent les progrès techniques, informatisation, numérisation des images, système d'information géographique, analyse des éléments traces, etc., ouvrent des champs d'investigation en expansion constante, dont les résultats confortent, remettent en question et en tout cas enrichissent les enquêtes précédentes. Membre de l'Union européenne, la Grèce n'est plus un pays lointain. La bibliothèque de l'école s'est agrandie sur place grâce à l'installation de Compactus. Elle accueille un nombre croissant de boursiers français et étrangers. Depuis cette année, la chronique des fouilles en Grèce, instrument de travail partout utilisé, est diffusée en ligne en collaboration avec l'école britannique. La création d'une section moderne et contemporaine, en germe dans le décret de 1985, prend pour champ d'étude l'ensemble des Balkans et permet de suivre la continuité de l'hellénisme jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur témoignage de la vitalité de l'école me sera fourni par ses publications. Outre la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, que nous partageons avec notre sœur romaine, et le bulletin de correspondance hellénique, les grandes collections qui accueillent les publications de nos travaux, les fouilles de Delphes, l'exploration archéologique de Délos, pour ne citer que ces deux-là, comptent plus de 150 volumes. Il y a là un monument à la Grèce, antique et moderne, à l'amitié franco-hellénique, à la science, mais aussi à la langue française. Nul ne peut écrire sérieusement sur Delphes ou sur Délos, et donc sur la Grèce antique, sans nous lire. C'est un résultat que Sainte-Beuve n'avait pas prévu, mais qui ne déplaira pas à notre académie. À l'heure de la réforme des universités, le statut de l'école doit évoluer, car il a la lourde fonction de mieux en assurer le rayonnement. Notre Grèce n'est plus celle des fondateurs de l'école. Nulle nostalgie à cette constatation. La science l'a enrichie, elle ne l'a pas dépouillée de son attrait. Je n'en veux pour témoin que la célébration du centenaire de la grande fouille de Delphes, où le vieil Apollon, qui n'avait pas été à telle fête depuis bien longtemps, put écouter à nouveau deux des hymnes que les anciens avaient composés pour lui et humer l'odeur des 50 moutons rôtis en son honneur.
Monsieur Nicolas Grimal, membre de l'Académie, donne lecture de son discours intitulé « L'Académie et l'Institut du Caire ».
En 1798, la campagne d'Égypte permit la découverte de la civilisation égyptienne. La publication de la description de l'Égypte de 1809 à 1828, le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, la création par Mariette d'un service des antiquités sont les principales étapes qui conduisent à la date de 1880 où fut créée l'école du Caire. S'il n'eut pas le loisir d'en être le premier directeur, Auguste Mariette avait proposé à Gabriel Charme en 1877, de créer, je cite, « une école destinée à rendre à l'archéologie et à la philologie égyptienne les mêmes services que ceux rendus par les écoles d'Athènes et de Rome à l'archéologie grecque et romaine ». Fin de citation. Et j'ajouterai que mes deux confrères ont si brillamment démontré les services éminents que ces deux écoles ont rendus qu'il ne m'est pas nécessaire de développer. Ce projet rejoignait celui de Gaston Maspero, qui, à peine 3 ans plus tôt, fraîchement nommé au Collège de France, avait suggéré l'idée d'une école d'application dépendant des hautes études. Première institution étrangère à s'installer durablement en Égypte, elle devait avoir pour vocation d'étudier tous les aspects de sa civilisation, de la préhistoire jusqu'à l'époque islamique. Le 28 décembre 1880, Jules Ferry signe en effet un décret instituant au Caire, je cite, « une mission permanente sous le nom d'École française du Caire ». Sa mission était, je continue la citation, « l'étude des antiquités égyptiennes, de l'histoire, de la philologie et des antiquités orientales ». Ce vaste champ défini comme archéologie orientale valut à l'école dans un deuxième décret daté du 18 mai 1898 le titre définitif d'Institut français d'archéologie orientale du Caire. L'appellation d'école du Caire continua toutefois à être utilisée parallèlement, par imitation des écoles de Rome, son aînée de 5 ans seulement, et d'Athènes, née, elle, en 1846. Peut-être aussi parce que l'idée d'avoir d'aussi jeunes membres de l'Institut sur les bords du Nil ne plaisait qu'à moitié aux riverains du Quai Conti. Les statuts de 1898 et 1913 mirent bon ordre à l'impertinence. Car bien qu'au contraire des écoles sœurs de Rome, d'Athènes, Madrid et d'Extrême-Orient, l'Institut français d'archéologie orientale n'ait jamais été formellement lié à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sa vie s'est toujours étroitement associée à celle de notre compagnie dans ce tissu si joliment décrit par notre secrétaire perpétuel. Mais revenons au premier jour de janvier 1881. Mandaté par Jules Ferry, Gaston Maspero arrive au Caire, accompagné du futur noyau de l'école, un architecte, arabisant, bourgeois, et deux de ses élèves de l'école pratique, Urbain Bourriand et Victor Loret. La mort d'Auguste Mariette, à peine 3 semaines plus tard, prive rapidement l'école de son premier directeur, appelé à prendre la succession de Mariette à la tête du tout nouveau service des Antiquités et du musée de Boulac. S'ensuivent quelques années d'improvisation. Eugène Lefébure, nommé à la succession de Maspero, ne supporte pas le climat égyptien et renonce en 1883. Eugène Grébeau est immédiatement nommé, mais ne peut rejoindre son poste que l'année suivante. Gaston Maspero assure donc l'intérim. Partageant les locaux pittoresques de Madame Zafira Effendi, accoucheuse des harems Khedivio, avec des rats grands amateurs de bougies et des chapeaux de son épouse, essayant de donner corps à une école aux compétences affichées, hors de proportion avec les moyens dont elle dispose. 3 élèves égyptologues et 3 orientalistes, diplômés les uns de l'école pratique des hautes études, les autres de l'école des langues orientales, sont associés à des pensionnaires, qui sont en fait des collègues plus âgés, orientalistes chevronnés et artistes, pour lesquels aucun diplôme n'est exigé. Ils se partagent un champ de recherche immense. Les philologues étudient toutes les langues de l'Égypte, de l'égyptien de tradition au copte, mais aussi celle du Proche-Orient, du cunéiforme au turc. Les archéologues font de même avec l'ensemble du Proche-Orient, étendant leurs compétences jusqu'à la Perse. Ce vaste champ, confirmé par les statuts de 1913, est aujourd'hui réduit à la vallée du Nil. Mais le projet de recherche diachronique couvrant la séquence complète des civilisations qui se sont succédées sur les bords du Nil, est resté. Ainsi est conservé l'esprit d'Ernest Renan, pour qui, je cite, « le Caire est le point indiqué comme centre non seulement des études égyptologiques, mais des études relatives à la Syrie, à l'Arabie, à l'Abyssinie et à toutes les régions nord-est de l'Afrique, une sorte de grand Khan scientifique avec une riche bibliothèque établie au Caire. » Nous y reviendrons. La réalité des premières années de l'école est beaucoup plus limitée. La révolte d'Orabi Pacha provoque plusieurs années de troubles, tantôt renvoyant en France élèves et pensionnaires, tantôt les empêchant de quitter le Caire. Ce sont finalement une 15 années sans fouilles, consacrées au relevé et à l'étude des monuments du Caire, d'Amarna, Thèbes et surtout ce qui va devenir l'une des spécialités de l'IFAO, à la publication des grands temples ptolémaïques. Le premier est celui d'Edfou, puis suivront Dendara, Esna, Komombo, Derchelouit, plus récemment Wenina. Cette œuvre immense, poursuivie pendant plus d'un siècle, arrive aujourd'hui presque à son terme. La publication de cette immense collecte, à laquelle s'ajoutent les sources grecques, coptes et arabes rassemblées au Caire, puis par la suite dans toute l'Égypte, montra rapidement l'urgence de doter l'école d'une imprimerie orientaliste capable de publier dans toutes les écritures non latines. Sa création dans les traces de l'imprimerie que Bonaparte avait introduite dans le pays et avec l'aide de l'imprimerie nationale est l'œuvre d'Émile Chassina, lui-même ancien prote. Les premières années passées, les fouilles proprement dites commencent au tournant du XXe siècle. Les tombes du Moyen-Empire à Meir, en Moyenne-Égypte, la nécropole royale d'Abou Roache, près du Caire, puis le grand site chrétien de Bawit, la nécropole d'Assiout, Touna el-Djebel, les sites grecs du Fayoum, Thèbes naturellement, le Wadi Hammamat, Deir el-Médineh, chantier qui est toujours en activité, Tell el-Fou, Medamoud, Taud, Karnak Nord, le canal de Suez, les monastères du Wadi Natroun et de Moyenne-Égypte, les Kélia, Fostat, la ville de la conquête arabe du Caire, les monuments de la ville médiévale, plus récemment les oasis du désert occidental, avec les découvertes importantes de Kharga et de Dakhla, et le jour nouveau que celle-ci jette sur les relations de la culture des bords du Nil avec le monde sahélien. Le désert arabique, ses voies commerciales et l'exploitation minière, les monastères de la mer Rouge, les remparts de Saladin au Caire, la belle association enfin avec le centre d'études alexandrine, fondé par Jean-Yves Empereur, qui rayonne aujourd'hui dans le monde méditerranéen comme jadis le phare qu'il mit au jour. La litanie, comme vous l'entendez, est longue, elle pourrait l'être encore plus. Tant d'archéologie nourrit une recherche riche et diverse, dont les développements philologiques, longtemps au cœur même du dispositif de l'Institut français d'archéologie orientale, restent au premier plan. La papyrologie, tant pharaonique que grecque, copte, latine, byzantine et arabe, est désormais rejointe par l'ostracologie, terme barbare, mais qu'a fini par imposer l'immense masse de documents conservés sur tessons et fragments de poterie. Les deux disciplines jadis reines ne sont plus aujourd'hui seules au Caire. Des recherches naguère encore considérées comme ancillaires ont gagné leur titre de noblesse. Céramologie, géomorphologie, topographie, restauration ont rejoint les études d'histoire, l'histoire de l'art et l'architecture, offrant aujourd'hui un éventail de recherches rarement égalé dans nos disciplines, en métropole. L'Institut français d'archéologie orientale est la seule des cinq grandes écoles à ne pas être placée sous la tutelle institutionnelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. En effet, la direction n'est pas astreinte à fournir à notre compagnie le rapport annuel que remettent les écoles sœurs et dont le compte-rendu, présenté par un académicien, doit être formellement approuvé. C'est en fait la seule différence. L'Académie des inscriptions et belles-lettres est consultée sur le choix de la direction et plusieurs de ses membres, dont statutairement le secrétaire perpétuel, participent au choix des membres scientifiques et à la vie de l'école à travers son conseil scientifique et son conseil d'administration. Plus encore, et au-delà des relations institutionnelles proprement dites, l'école du Caire constitue, comme ses sœurs, chacune dans sa discipline, un pan essentiel du long tissu qui relie les organismes de recherche des études orientales, croisant en entremêlant, comme l'a si bien dit notre secrétaire perpétuel, les vies et les carrières, dont l'Institut de France est l'un des aboutissements le plus prestigieux, aurions-nous tendance à croire. Installé depuis 1905 dans les locaux prestigieux du Palais Mounira, l'Institut français d'archéologie orientale a développé une imprimerie orientaliste unique au monde, réussissant dans les années 1990 la délicate mutation technologique de l'informatisation, sans rien sacrifier de la qualité qui fait sa réputation, publiant et diffusant aujourd'hui environ 25 ouvrages par an, dont les principales revues des disciplines qu'il a lui-même contribué à créer. Mais ce n'est pas le seul point fort de l'école qui est bien devenu ce grand Khan scientifique dont rêvait Ernest Renan. Le chercheur y trouve à la fois des équipes capables de l'assister dans tous les secteurs de la recherche, des équipements à la pointe de la technologie. L'Institut français d'archéologie orientale est par exemple la seule institution de recherche à disposer d'un laboratoire de carbone 14 en Égypte. Surtout un fonds documentaire unique, une bibliothèque couvrant toutes les civilisations étudiées par l'école et qui est probablement la seule à pouvoir rivaliser avec celle des instituts d'Orient du Collège de France. Des archives et des collections documentaires, pour la plus grande partie aujourd'hui publiées. N'oublions pas, ce qui est capital, une capacité d'hébergement et d'accompagnement des chercheurs de passage, qui leur font gagner un temps et une énergie précieux. Certes, il existe aujourd'hui tout un dispositif associant le ministère des Affaires étrangères au CNRS, qui couvre au Proche-Orient les champs que l'école du Caire n'a pu continuer à embrasser à elle seule hors d'Égypte. Au Caire même, le CEDEJ prend le relais de l'Institut français d'archéologie orientale pour la période contemporaine et est associé à d'autres structures de coopération bilatérale. Il n'en reste pas moins que l'Institut français d'archéologie orientale a tissé, au long de presque 130 ans d'histoire, un réseau scientifique qui fait de lui l'un des acteurs principaux de la recherche, non seulement pour l'archéologie et la philologie, mais aussi en sciences humaines dans l'ensemble de la région, et un partenaire privilégié des écoles sœurs, avec lesquelles il constitue une vitrine de la recherche française à l'étranger. Mes confrères l'ont tous dit, la redéfinition du dispositif des grandes écoles françaises s'impose sans doute aujourd'hui, étant donné l'ensemble plus vaste des nouvelles réglementations européennes dans lesquelles celles-ci sont appelées à évoluer. Il ne faut toutefois pas perdre de vue la place de premier plan qu'elles tiennent dans l'ensemble des disciplines classiques, médiévales et orientales. Leur réseau constitue, dans tous les pays relevant de leurs compétences, l'ossature naguère encore de la seule recherche française, aujourd'hui de la recherche européenne et internationale. Elles servent bien souvent de plateforme logistique et institutionnelle, assurant la continuité et les liens avec les partenaires locaux que les missions temporaires n'ont ni les moyens ni le temps d'assurer. Elle joue aussi auprès des pays hôtes un rôle souvent d'accompagnement et d'appui scientifique, toujours de coopération scientifique et patrimoniale, qui, prenant ses racines dans une longue histoire commune, est irremplaçable. Lieu d'excellence du fait de la qualité de leur recrutement, de leur rôle central dans la constitution et le développement des disciplines qui sont les leurs, elles illustrent l'ensemble des champs de la recherche et de la culture auxquels s'attache notre compagnie, qui s'en veut le protecteur et le garant naturel.
Monsieur Bernard Potier, membre de l'Académie, donne lecture de son discours intitulé « La Casa de Velázquez et le monde hispanique ».
Il y a un siècle, en 1909, s'ouvrait à Madrid l'École des hautes études hispaniques à l'initiative de l'Université de Bordeaux afin d'y accueillir de jeunes chercheurs. En 1916, une mission se rendait en Espagne pour renforcer les liens avec le pays voisin. Elle était composée du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Étienne Lamy, de Henri Bergson, membre de cette compagnie, et de Charles-Marie Vidor, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, d'où naissait la double vocation qui allait être celle de l'institution, les sciences humaines et les disciplines artistiques. Grâce aux efforts du directeur de l'école de l'époque, Pierre Paris, le roi Alphonse XIII cède en usufruit à la France en 1920 un terrain où fut édifiée la première Casa de Velázquez, qui fut inaugurée en 1928 et bientôt détruite par la guerre civile. Elle rouvrit dans son état actuel en 1959. Il existe une thèse de Jean-Marie Delaunay sur l'histoire de l'institution de 1898 à 1979. Des palais en Espagne, l'École des hautes études hispaniques et la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-espagnoles du XXe siècle. Et un ouvrage illustré et richement documenté, une Memoria Grafica, 1928-2003, publiée en 2006 dans le prolongement du 75e anniversaire de l'établissement. Comme le prévoient les statuts, le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil artistique de la CASA comptent des représentants statutaires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie des beaux-arts. La CASA, ce sont d'abord ses membres, 18 pour l'École des hautes études hispaniques et ibériques, couvrant les époques anciennes et médiévales, modernes et contemporaines, et 13 pour la section artistique. Deux directeurs des études encadrent les chercheurs, un troisième encadre les artistes. En outre, une trentaine de boursiers, artistes et scientifiques, des post-doctorants dont les recherches s'intègrent dans les programmes, et quelques allocataires au titre de la coopération internationale viennent enrichir cette communauté. Ce noyau dur est au centre d'un réseau d'activités riche et varié. Chaque année, quelque 700 chercheurs de 20 pays participent aux activités de l'école. Les trois quarts sont des étudiants français et espagnols, mais on note de plus en plus d'éléments provenant d'Italie, du Portugal, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, ainsi que du Maroc et de la Tunisie. Les activités de l'école sont fortement liées aux grands organismes de recherche, le CNRS en France, le CSIC en Espagne, et des projets sont engagés en liaison avec l'Agence nationale de la recherche sur des thèmes comme conflits et sociétés en Hispanie à l'époque de la conquête romaine, diplomatique, prosopographie et droit dans l'islam médiéval occidental, Augustin en Espagne, 16e-17e siècle. Plusieurs de ces programmes sont développés en collaboration régulière avec les centres français, EHESS, Paris 1, Paris 4, ou des universités espagnoles, la Complutense, la Autonoma, la UNED et la Carlos III. L'ouverture de la CASA se fait aussi tout naturellement sur l'Espagne, à travers des collaborations avec les municipalités ou les universités, comme c'est le cas de Barcelone, Saragosse, Séville, Alicante, Saint-Jacques-de-Compostelle, Valence, Tarragone, Valladolid, Gérone ou Cordoue. Mais les liens se développent avec le Portugal et de plus en plus avec l'Amérique latine. Citons par exemple cet appel à candidature lancé en commun par la CASA et l'Université de Toulouse pour une recherche doctorale portant sur les usages de l'histoire dans la constitution des identités nationales en Amérique latine au XIXe siècle, initiative appuyée par le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Maghreb est également un terrain privilégié. Rappelons que c'est à Fès que s'étaient réfugiés les artistes et les chercheurs de la CASA durant la guerre civile espagnole. Actuellement, des recherches archéologiques sont engagées sur plusieurs sites. À Rira, où une équipe de recherche franco-marocaine, chercheurs de l'Université de Pau et de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine de Rabat, étudie l'évolution de ce site et de son environnement au cours de la période antique. Et d'autre part, dans le sud marocain, sur le site d'Igilis, une enquête est menée sur l'histoire du peuplement rural au Moyen-Âge et à l'époque prémoderne, en collaboration avec des enseignants des universités de Paris 4 et de El Jadida. En dehors des grands domaines de l'histoire et de la littérature, on remarquera qu'une place est réservée à la linguistique. Ont déjà eu lieu un colloque sur les contacts linguistiques dans l'espace méditerranéen durant l'Antiquité et un autre sur « Être à table au Moyen-Âge, analyse littéraire et sociale ». L'archéologie tient également une place importante. Ce sont les fouilles de Bailo Claudia, dans la province de Cadiz, engagées en 1917 par Pierre Paris et développées de manière régulière par les archéologues de la CASA de 1966 à 1990. Depuis lors, il s'agit davantage d'interventions ponctuelles, mais la publication des résultats des fouilles, en particulier en ce qui concerne le centre monumental, a repris depuis l'an 2000. Mentionnons encore l'étude sur les mines et la métallurgie du plomb-argent de Carthagène à l'époque romaine et les carrières antiques d'Elche. Des collègues des universités de Paris, Toulouse, Pau, Lyon et Murcie sont associés à ces travaux. Quand on parcourt les intitulés de recherche des membres de ces dernières années, on est frappé par le remarquable éventail des domaines couverts. Citons quelques travaux. Les voyages des Andalous au Maghreb et en Orient au XIe et XIIe siècle. L'écriture de l'intime dans l'œuvre narrative de Leopoldo Alas Clarín, les contacts linguistiques entre Celtes et Ibères dans les deux zones d'interface épigraphique, vallée de l'Èbre, sud de la France, entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les représentations du corps et de la nature dans la Miche Alta, Mexique, la poésie visuelle de Juan Borrosa, la presse culturelle espagnole au 18e siècle, l'Amérique hispanique dans la littérature et l'iconographie espagnole de 1838 à 1885. Le rayonnement de la CASA est assuré par ses publications et ses réunions scientifiques ou artistiques. On compte deux collections traditionnelles, la bibliothèque de la CASA de Velázquez et la collection de la CASA de Velázquez, où sont édités les travaux des chercheurs et des actes de colloque, ainsi que la mélange de la CASA, dont deux numéros paraissent chaque année. La mise en ligne de l'ancienne série, jusqu'en 1996, a été effectuée sur le portail Percé, et les numéros de la nouvelle série, depuis 2003, paraîtront sur le site de la revue Orgue, 2 ans après leur sortie en version imprimée. Voici quelques titres parmi les derniers ouvrages parus qui montrent l'ampleur du champ couvert par les activités des membres. Les mots arabes, christianisme, islamisation et arabisation en péninsule ibérique, 9e, 12e siècle, par Cyril Hayet, ouvrage que notre académie vient d'ailleurs de récompenser par le prix Raoul du Seigneur. L'iconographie orientalisante de la péninsule ibérique, par Hélène Lemot. Guzmán del Farache y la novela moderna, par Michel Cavillac. Poétique des espaces naturels de la Comédia Nueva, par Marie-Eugénie Kaufmann. Parmi les colloques à venir, organisés à Toulouse, Bordeaux, Malaga, Pau, Barcelone, Madrid, Lisbonne, signalons, pour la période ancienne et médiévale, expertise et valeurs des choses au Moyen-Âge, guerre sainte et paix chrétienne à la fin du Moyen-Âge, l'itinérance des savoirs et des biens culturels en Méditerranée médiévale, le détroit de Gibraltar aux époques anciennes et médiévales. Pour les époques modernes et contemporaines, l'Espagne impériale, auge, eclipse et continuidad, les indépendances hispano-américaines, un objet d'histoire, circulation artistique dans la couronne d'Aragon, 16e, 17e siècle, le rôle des chapitres cathédrales. La section artistique, dont la plupart des membres ne sont pas hispanophones, mais il n'en va pas de même chez les boursiers, est un lieu de rencontre et de contact avec les différents aspects de la culture espagnole dans les domaines de spécialisation de ses représentants. Peinture, sculpture, photographie, cinéma, composition musicale, architecture, gravure. Voici comment l'actuel secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, M. Arnaud d'Autrive, a évoqué les bienfaits de son séjour à la Casa de Velázquez de 1964 à 1966. Je cite. « Au retour de Rome, je pratiquais une peinture non figurative. Je suis revenu ensuite à la figuration et c'est en Espagne que j'ai fortifié ma démarche picturale et que j'ai véritablement trouvé ma voie. Ce retour à la figuration a été inspiré par les scènes de vie et les paysages imprégnés par les couleurs de l'Espagne. La section artistique, tout au long de l'année, organise des expositions, des concerts, des projections cinématographiques, très souvent en association avec des organismes similaires espagnols. Deux catalogues ont été édités en 2009-2010 pour présenter les artistes de la Casa de Velázquez. En ce qui concerne les moyens de recherche, le service informatique continue à se développer et un nouveau site Internet a été créé en 2009. Quant à la bibliothèque, riche de 300 000 ouvrages, soit plus de 5 km de rayonnage, elle est momentanément inutilisable, victime des travaux de mise en conformité et de modernisation du bâtiment principal de la Casa. Le maximum est fait pour que les membres aient encore sur place les moyens essentiels de travail. Il faut apprécier l'aide qu'apporte le Consejo Superior de Investigaciones Científicas en prêtant des locaux dans son centre de sciences humaines. Malgré ces nouvelles contraintes, les responsables, et en particulier le directeur actuel de la Casa, M. Jean-Pierre Etienne, continue à assurer le bon fonctionnement de l'institution, laquelle, comme toutes les autres écoles à l'étranger, contribue efficacement au rayonnement culturel de la France dans le monde.
Vous venez d'entendre la retransmission intégrale de la séance annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée le 26 novembre 2010 sous la coupole de l'Institut de France.